de l'art et de la société. Alors, évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, mais je l'ai réduit. D'abord, je n'ai pas parlé de tous les arts, je vais parler de peinture, c'est plus agréable à voir. Et d'autre part, je vais parler simplement de deux ou trois questions. Alors, pendant des siècles, l'art a toujours été au service de la société. C'est-à-dire que les deux formes de peinture qui existaient, qui étaient majeures, c'était la peinture religieuse et la peinture d'histoire, c'est-à-dire une peinture qui illustrait les victoires des armées du roi, les grands événements de son règne, etc. Et l'art, à ce moment, n'existait que comme expression des valeurs sociales officielles. C'est-à-dire la célébration, c'était un art de célébration, soit de la religion, des saints, etc., soit du prince ou du roi qui gouvernait l'État. Et cette forme d'art continue dans les pays qui sont gouvernés par des régimes autoritaires. Par exemple, il y a eu pendant des dizaines d'années, un art qu'on appelait l'art réaliste socialiste, qui avait pour fonction d'illustrer la façon méritoire dont certains ouvriers produisaient les marchandises qu'ils devaient faire dans leur usine. L'art célébrait les vertus sociales des meilleurs représentants des États communistes. De même, il y a eu un art fasciste. Sous le nazisme, au temps de Mussolini, il y avait un art officiel avec un style qui était obligatoire. Donc cet art existe toujours, mais il est en voie de disparition dans les sociétés comme la nôtre. Mais en dehors des sociétés où l'art est ainsi instrumentalisé, la fonction de célébration de l'art demeure. Alors, on fait des statues, par exemple, pour célébrer les mérites des grands hommes, et dans les villes que vous fréquentez, Aix-en-Provence, il n'y a pas beaucoup d'œuvres d'art, mais néanmoins, les monuments qui sont là sont toujours des monuments qui célèbrent quelque chose, la mémoire de grands hommes ou la mémoire d'événements. D'autre part, il y a une autre relation de l'art à la société, c'est le fait que toute pratique sociale, et l'art est une pratique sociale, reflète inévitablement l'état de la société dans laquelle il apparaît. Donc les mouvements artistiques sont révélateurs d'une situation sociale particulière ou du moins de courants d'idées particulières. Par exemple, vous avez certainement tous entendu parler d'un type d'art qu'on appelle le pop art, qui consistait essentiellement à mettre en scène des objets de consommation courante qui étaient esthétisés, qui étaient transformés dans la façon dont on les donnait à voir. Il suffit de prendre une bouteille de bière et de la mettre dans un musée pour qu'elle ne soit plus à boire, mais qu'elle soit à regarder. Et à ce moment, on s'aperçoit qu'il y a des effets de lumière, il y a des formes intéressantes, que l'étiquette a des couleurs qui peuvent être plaisantes, et donc l'objet devient un objet artistique. Donc évidemment, un art comme le pop art ne peut exister que dans une société de consommation, une société d'abondance et de consommation. Et enfin, il y a un autre type d'implication de l'art dans la société, c'est quand des artistes se veulent témoins de leur temps, c'est-à-dire de la société dans laquelle ils vivent. Certains en font la matière même de leur art, on parle alors d'art engagé. Alors certains le sont toute leur vie, il y a par exemple à l'heure actuelle des artistes, surtout des vidéastes, qui consacrent toute leur imagination à faire des vidéos qui sont en faveur d'une évolution écologique de la société. Et c'est une forme d'art très active. Il y a d'autre part, dans certains pays du Moyen-Orient, des artistes qui font un art de protestation politique contre les régimes autoritaires qui sont instaurés dans leur pays par le moyen de la vidéo. La vidéo, c'est un art qui n'est pas très, très visible. On peut le transmettre par Internet, par exemple, et ça empêche d'être poursuivi par les autorités si on exprime des idées qui ne sont pas acceptables par le régime politique en place. Et donc, il y a un art protestataire, c'est un art engagé, qui actuellement est un art très vivant dans le monde d'aujourd'hui. Mais en dehors de ceci, je veux dire que tout artiste peut, à un certain moment de sa carrière, être sensible à un certain état de société, et donc se mettre à faire des œuvres qui parlent de ce qui se passe à son époque, dans le monde dans lequel il vit, très précisément. Je vais vous donner des exemples de ces trois de ces trois types de rapports entre art et société. Donc, le premier, je résume, c'est le premier type d'art, c'est un art reflet qui témoigne involontairement, puisque c'est obligatoire, n'est-ce pas, des valeurs sociales. Le deuxième type d'art, celui qui célèbre un grand homme ou un événement, c'est un art de commémoration. Et le troisième type d'art, c'est un art qu'on peut appeler engagé, dans les exemples que j'ai donnés, ou bien un art réactif. L'artiste réagit à la situation économique, intellectuelle, sociale, politique dans laquelle il vit. Dans tous les cas, la relation entre l'art et la société est une relation dialectique. La société produit, c'est-à-dire une relation d'échange. La société suggère des thèmes, des motifs, des idées, des sujets, et l'artiste, pour les traiter, va élaborer une esthétique. Il va inventer un style. Et donc, le rapport de l'art et de la société n'est pas simplement un rapport de contenu, hein, c'est aussi un rapport de forme. Je vais vous montrer deux ou trois exemples où les artistes ont inventé une forme tellement efficace pour dire une certaine chose qu'ensuite elle est reprise et utilisée par d'autres artistes beaucoup plus tard. C'est-à-dire que ce rapport de l'art et de la société peut créer une sorte de langage, des formes, qui peut être utile pour dire certaines choses nécessaires à un certain moment. Alors, je vous ai pour l'instant parlé, mais je vais surtout vous montrer des images, hein, et montrer au sens propre. Parce que je pense que vous avez des professeurs qui peuvent vous parler savamment du rapport de l'art et de la société, et moi je vais vous montrer, si possible, beaucoup d'images. Je dis si possible parce que je crois que j'en ai un peu trop prévu, mais je peux m'arrêter n'importe quand, et je compte sur vous, madame, pour me signaler 5 minutes avant que mon temps est terminé, parce que j'ai tendance à oublier. Bon. Alors, d'abord, l'art reflet de la société. Alors, vous nous pardonnerez, mais je n'ai pas de commande, donc je suis obligé de dire chaque fois à suivre. Alors, je vais vous donner trois exemples d'un type d'art qui est simplement un art qui reflète la situation sociale du monde, enfin la situation du monde dans lequel vit l'artiste. Alors, d'abord, l'exemple de l'impressionnisme. Les impressionnistes font des œuvres qui donnent l'image d'une société oisive. Le peintre lui-même fait partie de ces gens, est accepté dans une société aisée, et les sujets qu'il traite sont les occupations des gens qui vont lui acheter des tableaux. Les gens sont très heureux d'acheter des tableaux qui leur rappellent les bons moments qu'ils passent pendant leurs loisirs. Alors, exemple dans l'impressionnisme, par exemple, nous sommes au 19e siècle et les gens vont découvrir les environs de Paris et les plaisirs du canotage et de la voile sur la Seine et sur la Marne. Alors voici par exemple le tableau de Manet qui montre des gens aisés qui se sont habillés en canotier pour se livrer à la navigation sur l'eau et à tous les plaisirs qui vont avec. Ensuite, suivante, Renoir. Voilà Renoir, les canotiers, encore, Renoir. Le déjeuner des canotiers. Oui, ce sont des bons moments que l'on passe en compagnie et le tableau rappelle à celui qui le possède ces moments heureux de sa vie de plaisir. De même, le séjour au bord de la mer. À cette époque, c'est le moment où on commence à aller à la plage et bientôt on va se baigner. Pour l'instant, on ne va que s'asseoir sur la plage et respirer l'air iodé du bord de mer. Alors, Monet. Suivante, pardon, j'ai oublié de dire ça. Suivante. Hop, suivante, là. Monet, la terrasse de Sainte-Adresse, c'est un des premiers grands hôtels que l'on construit au bord de la mer et où les gens peuvent passer leur journée à regarder les bateaux de pêcheurs qui naviguent. Ensuite, Degas à la plage. Ensuite, Manet sur la plage. Oui, donc, on passe sa journée à laisser le temps passer, à ne rien faire. Autre loisir de cette société, la course de chevaux. Il y a un peintre qui est spécialisé dans ce genre de choses, Degas, aux courses avec monsieur, ensuite les chevaux de course devant les tribunes, ensuite des jockeys amateurs. Le titre précise, ce sont des jockeys amateurs, c'est-à-dire vous ou moi, si nous avions la passion du cheval, nous pouvons aller sur les champs de course, nous pouvions à cette époque aller sur les champs de course et participer à certaines courses, et le tableau rappelle, n'est-ce pas, cette latitude qui est donnée à des gens fortunés. La peinture également montre les lieux de plaisir où l'on va. Suivante, Renoir, le moulin de la Galette, qui est un bal très populaire, Manet, un bar aux Folies Bergères. Les Folies Bergères existent toujours. On y donne des spectacles où on voit surtout des jeunes dames déshabillées. Et ici, vous voyez la tenante, celle qui tient le bar, et qui, alors que tout le monde vient là pour se distraire, qui a l'air de s'ennuyer fortement. Degas, les ballets de Robert le Diable. Ici, il nous donne à voir un point de vue particulier où on voit les musiciens de l'orchestre qui sont en contrebas de la scène. C'est un point de vue original, c'est un point de vue particulier que seuls les gens des premiers rangs peuvent avoir. Parmi ces plaisirs, à cette époque, celui parmi les spectacles que l'on aime aller voir, ce sont les ballets. On vient de construire l'Opéra de Paris, donc la danse. Et le peintre Degas, c'était une spécialité de montrer les danseuses pendant le spectacle. Ensuite, à la fin du spectacle, quand elles saluent, c'est leur triomphe. Ensuite, la classe est quand elles s'entraînent. Et dernier exemple, on peint également les artistes célèbres, Toulouse-Lautrec, qui montre ici Jeanne Avril, qui était une chanteuse et une danseuse très renommée, et encore la clownesse Cha-U-Kao, comme son nom l'indique, c'était une japonaise qui faisait des danses exotiques. Cependant, les impressionnistes ne montrent pas que les plaisirs des gens, parce que en les montrant dans leur déplacement, les impressionnistes sont témoins de la transformation de la société sous l'angle industriel aussi. Dernière image, voici, c'est une bonne qui est allée, qui a sorti la fille de ses employés, qui l'a amenée au jardin public, mais ce jardin est tout près de la gare de l'Est, et la petite fille regarde passer un train, que nous ne voyons pas. Mais le train, à cette époque, c'est une nouveauté assez exceptionnelle. Bon, voici donc un premier exemple. C'est l'art refait de la société. Ces peintres font des tableaux qui plaisent à leur clientèle, mais ces tableaux, pour nous montrent quel type de vie, quel type de société, quel type de vie mènent ces gens et dans quel type de société ils sont. Deuxième exemple, l'enthousiasme pour le progrès. Suivante, merci. Il s'agit d'un peintre qui s'appelle Robert Delaunay et qui, nous sommes après le cubisme, vous savez, le cubisme va permettre de prendre de grandes libertés dans la représentation de l'apparence des choses, et donc les artistes peuvent disposer à leur gré de la forme. Ils la décomposent, ils l'analysent, après ils la recomposent, et ils jouent ainsi à inventer des modes de représentation nouveaux. Alors, Delaunay était un ami de Picasso, de Braque, il s'est converti au cubisme, et arrive la guerre de 14-18, et il est mobilisé. Et la première chose qui l'étonne dans la guerre, c'est de voir la beauté des canons. Il écrit à un ami, « Je n'ai jamais rien vu de si beau que la culasse d'un canon de 75. » Il est ébloui par la façon dont la mécanique, l'organisation des pièces qui s'ajustent les unes dans les autres avec une précision extrême, dont la mécanique fonctionne. Et il va se donner pour tâche d'inventer un style qui rende sensible cette évolution de la société qui entre dans une époque industrielle où les usines sont remplies de machines et où les machines prennent de plus en plus de place dans la vie, à tel point qu'elles modifient les façons de vivre et d'agir. Et on pourrait dire que symboliquement, il va en faire ça une apparence des choses. Ça, nous sommes toujours pendant la guerre, la partie de carte des soldats. Vous voyez qu'ils sont, réduits à des cylindres qui s'ajustent un peu comme des pistons et des parties de machines. Alors ensuite, voici une série de tableaux qui vont vous montrer l'image de la ville que donne Léger. Évidemment, la ville n'est pas comme ceci, mais il invente une image synthétique de la ville qui rend compte de sa transformation. On construit des grands immeubles. Maintenant, la ville est faite d'angles droits et de formes qui sont des formes géométriques simples. Et il va donc construire des paysages avec des parties qui sont symboliques de cette transformation de l'apparence des choses, du décor de la vie quotidienne. Ensuite, les disques, un des éléments qui nous paraît emblématique de la modernité, c'est le disque, parce que les chemins de fer, par exemple, obéissent à une signalisation qui se fait par disque, et le chemin de fer se développant, rapetissant les distances, permettant de communiquer rapidement, lui paraît un des phénomènes les plus caractéristiques de la transformation du monde. Il ne faut pas oublier qu'au début du siècle, on a inventé simultanément Les chemins de fer se sont développés, ils ont été inventés avant, on a inventé l'aviation, on a commencé à éclairer les villes à l'électricité. C'est de cette époque que date le surnom de Paris comme ville lumière. À cette époque, c'était la première ville éclairée à l'électricité, d'où son nom. On invente la radio. Et donc, pour les gens, c'est un peu un miracle. C'est comme si tous les interdits, n'est-ce pas, antiques, qui limitaient la liberté de l'homme, le fait que la distance était un obstacle à la communication, qu'on ne pouvait pas s'entendre si on n'était pas en présence, etc., que l'homme était condamné à se traîner sur la surface du globe, comme si toutes ces suggestions et ces fatalités, tout d'un coup, disparaissaient. Et on a l'impression qu'il y a une immense liberté, une immense possibilité de transformation de distance qui apparaît. Et le style de Delaunay traduit cet enthousiasme pour le progrès. Ensuite, les maisons. Ensuite, composition à l'escalier. Ce qui l'intéresse ici, c'est évidemment la rythmique. L'escalier a un rythme de marche en marche. Mais toute la ville, maintenant, fonctionne par des rapports rythmiques entre formes géométriques simples. Ensuite, le remorqueur qui est l'exemple même d'un instrument mécanique qui permet de développer énormément la production industrielle, puisque le remorqueur permet de transporter les marchandises rapidement avec des trains de chalands d'une ville à l'autre. Et c'est un objet donc emblématique comme la locomotive de la modernité. Encore, alors vous voyez un remorqueur qui est encore à peu près reconnaissable, mais regardez le tableau suivant. Merci. C'est pas le remorqueur, peu importe. Il y a eu deux remorqueurs. Si vous les avez comparés, on peut revenir en arrière et montrer les deux l'un après l'autre. Le premier, il est relativement reconnaissable. Le deuxième n'est pas reconnaissable. C'est-à-dire que le tableau devient un jeu de forme et de rythme. Et le style de représentation est plus important que la reconnaissance des choses représentées. C'est-à-dire qu'on voit là l'exemple même de cette relation que j'ai appelée dialectique. La société propose des thèmes qui intéressent l'artiste et qui même l'enthousiaste, et il cherche à inventer un style qui permette de rendre compte d'une des qualités particulières de ces objets, c'est-à-dire leur modernité. Et donc la modernité, c'est toujours surprenant. Ensuite, les hommes. Ensuite, j'enchaînais pour montrer comment on peut représenter différents types, le marinier, le typographe. Le typographe, le mécanicien, enfin vous les avez passés, hommes et femmes, et enfin même les natures mortes, qui sont d'ordinaire des compositions d'objets simples, soit de la vie quotidienne, deviennent chez Léger des compositions de formes abstraites, géométriques. D'ailleurs, ces natures mortes s'appellent éléments mécaniques. Passez-les, encore. Et vous voyez, ce tableau s'appelle le roulement à billes. On vient d'inventer le roulement à billes, et c'est une merveille, le roulement à billes. Pour la première fois, on peut faire tourner quelque chose sur un axe sans qu'il y ait une résistance au frottement qui use très rapidement les pièces qui sont en mouvement. Donc c'est un progrès extraordinaire, et le peintre célèbre cet objet utile et qui va transformer, il va faire progresser l'industrie. Ensuite, et même un personnage tout à fait ordinaire, c'est-à-dire un objet tout à fait ordinaire, le poêle à charbon, devient un objet étonnant par la façon dont il est traité. Mon troisième exemple, c'est un exemple très différent. Ensuite, voilà, on s'arrête là. La guerre de 14-18 dure infiniment plus longtemps qu'on avait prévu, et elle est l'occasion, comme vous le savez, d'un massacre extrêmement important, et en même temps il se passe une chose qui surprend et qui désespère beaucoup de gens, c'est-à-dire que tous les progrès de l'industrie et de l'intelligence humaine que justement Robert Delaunay célébrait vont servir non plus à améliorer la vie quotidienne mais à détruire. L'avion devient un instrument de bombardement. Le gaz n'est plus un moyen d'éclairage, mais un moyen de tuer en masse. Et l'automobile se transforme en char d'assaut, etc., etc. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de faillite de la raison. Vous savez, depuis le XVIIIe siècle, on vit, c'est une vieille histoire, mais le XVIIIe siècle, elle reprend force. On vit dans ce qu'on appelle l'idéologie du progrès. Et on a l'impression que le progrès, au lieu d'aller vers le bonheur ou des conditions de vie plus agréables, va vers la faillite de l'intelligence et vers la destruction de l'humanité. Donc ceci va entraîner chez un certain nombre d'artistes et d'intellectuels une véritable révolte. La littérature s'en fait le témoin. Il y a 20 ans de littérature désespérée à travers le monde. On appelle parfois cette génération d'écrivains la génération perdue. Et en art, il y a une révolte, il y a un mouvement qui se crée pendant la guerre, qui s'appelle le mouvement Dada. Dada ne veut rien dire, c'est un mot choisi justement parce qu'il ne veut rien dire. Et Dada va protester contre cette faillite de la raison et de l'intelligence, et donc va favoriser l'irrationnel, l'instinctif, l'inconscient, l'onirique, l'absurde, etc. Et ce mouvement de là va évoluer petit à petit, va donner naissance à un autre mouvement qu'on appellera le surréalisme. Parmi les artistes qui vont passer de Dada au surréalisme et rester longtemps dans cette veine de création d'événements ou de spectacles qui n'ont aucune raison d'être que la fantaisie ou l'illogique, il n'y a aucune explication à ce qui nous est donné à voir. Ce sont des éléments de pure fiction, mais dont l'intelligence ne peut pas rendre compte comme étant utile à quelque chose ou étant explicable. Il y a un artiste qui s'appelle Max Ernst. Et je vous montrerai dans quelques images de Max Ernst qui témoignent de ce mouvement général qui va durer pendant 20 ans, qui concerne beaucoup, beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'artistes pendant plus de 20 ans et au-delà d'ailleurs, et vous montrer comment la peinture rend compte de ce mouvement social, qui est un mouvement de protestation contre ce qu'on peut appeler un échec de l'intelligence et une faillite de la société, dans ses raisons d'être habituelles. Alors, on va les passer, vous enchaînez, je ne vais pas donner les titres. Si, je vais donner les titres parce que vous allez voir que les titres sont tout à fait absurdes. Le premier s'appelait Oiseau dans un paysage, ce qui était fait avec des instruments des ciseaux et des instruments de dentiste. Ça, c'est nageur aveugle. Alors, l'artiste a aussi inventé une technique, c'est le frottage. Vous prenez un plancher de bois, vous mettez une feuille de papier dessus, vous frottez avec une mine de crayon, et ça va vous donner le dessin du bois. Et en fait, le tableau reprend le dessin du bois et va extrapoler à partir de ce hasard des formes qui apparaissent quand on frotte quand on fait un frottage et vont en tirer parti. Ensuite, ça s'appelle Ubu Imperator, je prépare pour vous expliquer. Ensuite, l'éléphant célèbre, et vous voyez que les deux tableaux qu'on vient de voir sont des machines absurdes. C'est des machines qui sont des machines anti-Robert Delaunay. Le peintre d'avant célébrait la machine et celui-ci s'en moque. Ensuite, au premier mot, limpide, voilà, inexplicable, la scène, combat de poissons, merci, victoire du fuseau, l'habillement de l'épousé, c'est une autre technique inventée par ce peintre, vous prenez une éponge, la trempez dans la peinture et vous la projetez violemment sur la toile, et ça va donner des formes tout à fait hasardeuses, et à partir de ces formes, vous essayez de construire une figure. Ensuite, la femme chancelante, la roue du soleil, la grande forêt. Alors ça, ce sont des paysages qui sont anti-romantiques. Maxien est allemand d'origine, il deviendra français plus tard. Et dans la culture allemande, surtout la culture romantique, la forêt est un lieu magique. C'est là que les héros de la mythologie et les dieux de la mythologie ont trouvé refuge. Et c'est en quelque sorte le symbole de la vitalité de la nature qui toujours se rétablit et dont l'homme peut tirer parti. Mais évidemment, chez Max Ernst, les paysages sont des paysages absurdes, mi-végétaux, mi-mécaniques, il y a une contradiction dans l'apparence, et ce n'est plus une nature à laquelle on peut faire confiance. Ensuite, ça s'appelle « Monument aux oiseaux », ensuite, geste sauvage. Ensuite, deux personnages et un oiseau. Ensuite, la horde. Ensuite, après nous, la modernité. Et vous voyez que toutes ces images sont des images effrayantes. On n'a plus confiance dans l'existence, on n'a plus confiance dans la nature, on n'a plus confiance dans les institutions. et on s'abandonne à des fantasmes, l'imagination est envahie par des monstres. Ensuite, l'ange du foyer triomphe du surréalisme. C'est un tableau vivant très ironique, puisque Marc Cerne fait partie du mouvement surréaliste, mais il constate que les surréalistes, entre eux, commencent à devenir un peu des fonctionnaires, ils se réunissent régulièrement dans un café et ils ronronnent. Et avec ironie, Marc Cerne leur rappelle qu'à l'origine, le surréalisme était un mouvement de révolte et de révolution, et que peut-être ils ont oublié leur volonté de violence. Et le monstre qui ressurgit montre bien que on n'est pas satisfait de l'état présent des choses. Alors, voilà donc pour montrer ce premier exemple de l'art qui participe, l'art produit par des artistes qui participe au mouvement d'ensemble à l'évolution générale d'une société et dont les tableaux, par leur thématique et par leur apparence, bien sûr, le style que ces artistes élaborent, cherchent à donner une traduction du parti pris que les artistes ont à l'égard du monde. Ils traduisent les idées de leur temps ou de leur groupe ou du mouvement auquel ils appartiennent. Ils leur donnent une forme originale. Donc c'est de l'art entièrement, c'est de l'art qui est en quelque sorte issu, produit par la situation historique. Mon deuxième chapitre, ce sera l'art célébrant les événements. Alors, je vais prendre un exemple très fort, il y en a des centaines, des milliers, bien sûr. Suivante, c'est un tableau de Goya, peintre espagnol, célébrant en 1814 la révolte du peuple de Madrid contre les occupants français qui, à cette époque, avaient envahi l'Espagne. Cette révolte a lieu en 1808. Donc c'est un tableau commémoratif en même temps qu'une célébration du courage d'une population qui se révolte contre la force militaire qui exerce l'autorité. Alors, ce sont deux grands tableaux, bien sûr, des tableaux comme ceux-ci qui veulent célébrer avec force un événement, sont tentés, et c'est quasiment une règle, n'est-ce pas, d'adopter de très grands formats. Et ces tableaux font 2,66 m sur 3,45 m. Alors, le premier s'appelle 2 mai 1818, c'est la lutte contre les Mamelucs. Vous savez, les Mamelucs, c'était des soldats égyptiens ou d'Extrême-Orient que Bonaparte avait ramené avec lui en France. Et le deuxième tableau, voici maintenant, s'appelle le 3 mai 1808, c'est la répression, ce sont les fusillades de la montagne du Principe Dio. Ça se passe en Madrid. Mais vous voyez ce que Goya a fait, là il a inventé quelque chose. Il a inventé une façon de représenter avec une force étonnante et inattendue l'événement. Il n'y a aucun naturalisme, mais tout vise à la dramatisation. Les soldats sont réduits à une sorte de masse épaisse. Il y a une proximité irréaliste entre les fusilleurs et les fusillés. Et surtout, il y a l'exaltation lumineuse d'une des victimes qui, vous voyez, au moment même où il va mourir, se dresse et a les bras en croix. On dirait le Christ de la résurrection. C'est le modèle, bien sûr, qui est implicite derrière ça. Un combattant de la liberté peut mourir, la liberté, le désir de liberté lui survivra. Et c'est pour ça qu'évidemment, Goya prête à cet homme, au moment même où il est fusillé, une attitude qui est celui qui ressurgit de la tombe. C'est l'idée, ça, qui ressurgit. L'homme meurt, mais l'idée rebondit. Donc il y a là une trouvaille, ce tableau devient instantanément célèbre, et il est admiré. Et tous les gens cultivés connaissent ce tableau. 60 ans plus tard, Manet, suivante, va faire un tableau qui s'inspire du jeu de Goya. Vous voyez, ça c'est l'exemple d'un événement social, rapport de la société de l'artiste, qui, devenu œuvre remarquable par sa forme, propose un modèle réinterprétable pour une autre cause. En 1867, Manet peint ce tableau qui c'est l'exécution de l'empereur du Mexique, Maximilien. L'empereur du deuxième empire français, Napoléon III, avait tenté d'établir un empire au Mexique dont l'empereur était un cousin lointain de autrichien. Et tout ceci était en fait une aventure, non, une aventure, on va dire, diplomatique et coloniale, française en réalité. Et l'expédition tourne mal, il n'y a pas assez de troupes, il y a une révolte générale, et finalement, l'empereur Maximilien, l'empereur, celui qui s'était proclamé empereur, c'est ça qui avait pris le petit d'ampleur, et deux généraux, le général Noya et le général Miramón, qui sont des généraux mexicains, mais qui avaient pris son parti, sont fusillés. En peignant ce tableau, Manet fait un acte politique. C'est une façon de dénoncer la responsabilité de Napoléon III, qui a envoyé dans un pays lointain quelqu'un auquel ensuite il n'a pas accordé le support, l'aide nécessaire. Vous remarquez dans ce tableau, il n'y a plus le grandissement héroïque de la victime qu'il y avait chez Goya. Ce que Manet fait, c'est faire un tableau où cette mort se passe dans la banalité la plus absolue. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, c'est un mort pour rien. On l'a tué comme on tuerait un chien et on n'en parle plus. Ça ne vaut pas la peine qu'on fasse des efforts pour donner une prestance, une grandeur, un héroïsme, une aura à cet événement. Donc il réduit le modèle de Goya à une situation de quasi-banalité, mais en fait ça c'est une accusation. Si Maximilien est mort si banalement, ou si discrètement finalement, parce que personne ne s'est trop occupé de son sort, c'est la faute de Napoléon III. Un siècle plus tard, Picasso, suivant, va reprendre le même schéma. C'est pendant la guerre de Corée, nous sommes en 1951, et il fait ce tableau qui s'appelle Massacre en Corée, pour protester contre la guerre qui dure en Corée. Alors, c'est un tableau de commande, parce que Picasso n'est pas un peintre qui s'intéresse à l'histoire, il n'a jamais peint de tableau d'histoire, mais il a adhéré à la fin de la guerre au Parti communiste, parce qu'il lui semblait que c'était celui qui avait le plus lutté, il lui semblait, je dis bien, je ne porte que jugement sur la chose, je veux simplement dire qu'il avait adhéré au Parti communiste sans intérêt réel pour la politique, mais par sympathie pour un parti qui lui semblait avoir combattu efficacement contre la liberté, et ensuite, toute sa vie, il est resté fidèle à ce parti, et ses amis artistes ou intellectuels communistes plus convaincus que lui ne cessaient de lui réclamer de mettre son art au service des causes que défendait le Parti communiste. Quand le Parti communiste était opposé à la guerre en Corée, il a fini par céder et a fait ce tableau qui s'appelle « Massacre en Corée ». C'est un très mauvais tableau, il n'apporte rien à la gloire de Picasso, parce que vous voyez, il a supprimé la perspective biaise, il a ramené sur le plan les deux groupes qui sont opposés de façon tout à fait simpliste. D'un côté, vous avez la déshumanisation mécanique des fusillères, de l'autre côté, vous avez le misérabilisme trop humain, trop fortement accusé de la faiblesse humaine des victimes. Donc il y a une sorte de simplisme tout à fait qui n'est pas du tout convaincant dans cette opposition. La seule chose qui soit intéressante peut-être esthétiquement dans ce tableau, c'est que c'est le renoncement à la couleur. Tout le tableau est d'un gris qui est celui du deuil, celui de la tristesse. Alors d'une certaine façon, ce tableau est à peu près le contraire du modèle d'organisation dramatique, du chef-d'œuvre de la peinture engagée de Picasso, qui est Guernica, suivant, que vous connaissez tous, que je ne vais pas commenter. Cette œuvre immense, qui fait 3,51 m sur 7,82 m, a été peinte pendant la guerre d'Espagne pour protester contre le premier bombardement par des escadrilles d'avions de guerre d'une population civile. Ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, ça deviendra monnaie courante. Mais la première fois que ça se fait, et que 3000 personnes sont tuées, qui sont des civils et qui n'ont rien à faire avec la guerre directement, ça provoque une émotion considérable et une indignation à peu près générale. Et Guernica, Picasso, qui doit peindre un tableau pour le pavillon de la République espagnole à l'exposition universelle de Paris, choisit ce thème d'actualité pour en faire une grande œuvre de protestation. Et vous voyez que dans cette œuvre, il y a un style. La liberté dont je parlais tout à l'heure, de décomposer la forme, de la recomposer à sa guise, est utilisée par Picasso pour en faire le style même de la destruction, de la déshumanisation, de la défaite des corps physiques. Et donc, il invente un expressionnisme de la violence et de la douleur. Et en effet, c'était une grande peinture historique. Un autre exemple que je voudrais vous donner, de toute autre nature, voilà, ce sont trois tableaux, c'est un triptyque. Voici le premier, on va revenir ensuite. Passez le second et le troisième. Ce sont les tableaux de Miro, qui s'appellent L'espoir d'un condamné. Et vous avez ri, mais et vous avez raison, parce que, évidemment, au premier coup d'œil, il n'y a rien d'explicite ou de manifeste, mais quand vous connaîtrez l'histoire, ce sont les dernières années du franquisme et un syndicaliste espagnol a été condamné à mort. Franco avait interdit les activités syndicalistes, il y avait donc des syndicats clandestins, et ce condamné à mort, on pensait qu'il serait peut-être... gracié. Et ça dure un certain temps, et finalement il sera mis à mort. Or, Miro, qui a la différence de Picasso n'est jamais revenu en Espagne. Il avait juré qu'il ne reviendrait jamais en Espagne quand l'Espagne serait sous un régime de dictature. Et Franco est mort 2 ou 3 ans, je crois, à peu près, après la mort de Picasso. Donc Picasso n'est jamais revenu en Espagne. Par contre, Miro, lui, qui avait été aussi un opposant à Franco pendant la guerre d'Espagne, était revenu et avait trouvé des accommodements avec le régime. Il ne se faisait pas trop entendre. Mais là, il est sorti en quelque sorte de sa quiétude. Il était si célèbre universellement qu'il ne craignait plus grand-chose. Il a fait ses 3 tableaux. Est-ce qu'on peut les revoir à partir du premier? Oui, voilà. Et vous allez voir comment, avec des moyens non figuratifs, on peut dire des choses. Le premier est une tache rouge, rouge de la vie. Il y a encore de l'espoir. Rouge est une couleur vive et chaude. Deuxième, bleu. Le bleu, c'est la mort. C'est une couleur froide. C'est la mort qui menace, qui s'approche, hein, qui est de plus en plus certaine. Trois, il y a accroissement de la longueur et de la densité des traits de fusain verticaux. Oui, on peut les repasser toutes les trois. Regardez le bas de la toile, la première. Vous voyez, il y a des traits noirs, deuxième aussi. Et la troisième, ils sont plus nombreux et plus grands. Et ces tracés du fuseau sont comme des traces de larmes. Ils sont couleur de deuil. Et c'est un peu comme si Miro avait inventé une figure abstraite de la plainte et de la douleur. C'est la seule fois dans ces 3 tableaux où le trait noir, voilà, qui est la traduction de l'espoir, de la vie qui continue, mais ça, c'est la trace d'une vie qui se prolonge sous l'ombre de la mort, c'est pour ça qu'elle est noire. C'est la seule fois où c'est l'interruption du trait noir se termine par une dégoulinade de peinture, c'est-à-dire métaphore, c'est le sang versé. Donc, vous avez là une réussite dans cet engagement de la peinture au service, au service de la célébration, commémoration, ici cette protestation contre un événement social, qui est un paradoxe. L'art abstrait devient narratif et les moyens minimaux sont pleinement expressifs. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. On peut passer à la suivante, je ne sais pas ce qui vient, et donc. C'est bien, ça va, très bien, merci. Alors, je vais passer au troisième type de relation entre l'art et la société. Quand les événements qui marquent une société gouvernent ou orientent la création de l'artiste, thématiquement et esthétiquement. J'ai encore pris l'exemple de Picasso, parce que je me disais que peut-être. Vous savez que l'été dernier, depuis juin jusqu'à septembre, il y a une grande exposition Cézanne et Picasso à Aix-en-Provence, que peut-être quelques-uns de vous y étaient allés, et peut-être qu'on vous y a amené à toute la classe, que sais-je. Mais cette exposition montrait Picasso, débiteur de ses maîtres, d'autres peintres, imitateur de peintres, pas imitateur, mais recueillant des formes ou des idées ou des thèmes et les exploitant de façon originale. Donc un peintre ne s'occupe que de peinture, il peint à partir de la peinture. Et je voudrais vous montrer ici un peintre qui n'est pas l'héritage des peintres précédents, mais qui est tout entier engagé dans le flux de la vie quotidienne. 1836-37, c'est la guerre d'Espagne. Picasso peint ceci. Hein. Alors, d'abord, je vais dire. 1836-37, la guerre d'Espagne. Puis, 1837-38, montée de l'angoisse devant la menace d'une guerre généralisée. Enfin, la guerre européenne se produit, éclate, et la France est occupée et défaite. Et Picasso reste en France, où il n'est pas très à l'aise, parce qu'il est espagnol, donc il risque d'être envoyé dans son pays, alors là, direct la prison avec Franco. Et par ailleurs, il a pris très, très clairement position contre le fascisme et le nazisme. Donc, situation d'angoisse générale pendant toutes ces années. Et donc, 1937, c'est la guerre d'Espagne, et il a peint Guernica, et il peint ceci, femme suppliant. Et puis ensuite, femme qui pleure. Ensuite, femme qui pleure. Regardez la trouvaille, un fond violet qui est couleur de la douleur et du deuil. Mais la trouvaille, ce sont les griffures. Le visage est complètement égratigné avec une pointe d'acier, ce qui fait que le visage est défait au sens propre et au sens figuré. Ensuite, femme qui pleure. Et encore une fois, la liberté de déconstruction cubiste sert ici pour devenir le style même de la douleur. Ensuite, alors, des pleureuses, comme ça, c'est un thème, c'est vrai que pendant ces années, il va reprendre régulièrement, il y en a des dizaines. Et ainsi que des natures mortes qui ne sont plus des natures mortes joyeuses. Vous voyez celle-ci, que voyez-vous qui a donné? C'est la tête du taureau de Guernica. Qui revient, qui est l'image même de la mort, puisque dans Guernica, il y a le cheval qui est écartelé et qui vit, dont les tripes se répandent, et ce sont les victimes de la guerre, et il y a le taureau qui domine, et c'est la force aveugle et violente de destruction. Bon, donc, nature morte qui reprend le motif de Guernica. 1839, invention d'un symbole. Suivante, le chat. Le chat figure même de la cruauté, et l'oiseau bien sûr la victime. Là aussi, il y a toute une série de tableaux sur ce thème. Ensuite, 1943, tête de femme. Pendant la guerre, tous les tableaux de Picasso sont des tableaux de couleur sombre, et la figure féminine se désarticule. Il y a une déshumanisation de l'anatomie. Ça traduit donc son sentiment d'angoisse ou de pitié peut-être pour les victimes de la guerre. Survient la libération de Paris en 1944, le jour même où Paris est libéré. Ensuite, Picasso va prendre modèle sur ce tableau de Poussin. C'est une bacchanale, c'est-à-dire c'est une scène mythologique où tous les satyres et toutes les nymphes dansent ensemble dans une fête. C'est la liesse qui emporte tout un chacun. Et Picasso choisit ce thème pour faire une œuvre suivante. Qui limite, qui est la sienne. Je suis désolé qu'elle soit si petite, mais c'est comme ça quand on se calme. Hein. Il y a une transformation de la scène, mais ce qui compte, c'est la scène de joie. Hein. Il y a une transformation stylistique, mais il garde le thème de la joie générale, généralisée, hein, Paris est libéré, et avec une seule transformation, le personnage central, la précédente, on peut revenir. La personne centrale est un satyre, vous voyez, le plus haut au centre. Et dans la deuxième, c'est une jeune nymphe à la superbe poitrine. Et les gens qui connaissent Picasso, ils reconnaissent Françoise Gillot, qu'il vient de rencontrer et qui va être la femme avec laquelle il va vivre heureusement pendant les 10 ans suivants. Donc, joie privée et joie publique sont confondues. Mais, suivante. Arrivent à Paris les premières photos qui sont prises par les correspondants de guerre des charniers et des personnages réduits à l'état de squelette vivant des camps de concentration de Ravensbrück et de Auschwitz que les troupes américaines et russes libèrent. Et là, ça crée vraiment une horreur extraordinaire. Et Picasso réagit à ceci, il peint ce tableau charnier. Encore une fois, c'est un tableau en noir et blanc. Chaque fois qu'il condamne la cruauté de la guerre, il revient au noir et blanc, couleur du deuil et de la mort, plus fortement tragique. Et vous voyez qu'il y a un contraste entre sur la table une nature morte, c'est la table mise, hein, c'est la vie, et c'est clair. Et en bas, c'est toute une famille qui a été massacrée, qui est empilée, et c'est la mort. Il sombre dans la mort, en jouant sur les mots. Et il va refaire aussitôt cette œuvre, c'est un dessin, c'est une peinture à langue de Chine. Et il va le refaire aussitôt en gravure, regardez. Et vous voyez, infiniment plus noir, infiniment plus tragique, infiniment plus violente. Ce sillage de la douleur et de l'inquiétude, c'est-à-dire cette manifestation artistique de la participation émotive et affective de Picasso à la vie de la société de son temps, va se continuer jusqu'en 1945-46. Hein, et puis après, il va passer à une autre phase de sa vie, au bonheur de vivre, il revient au bord de la Méditerranée, qui est le paysage qu'il aime par-dessus tout, il s'y installe et sa peinture parlera de son bonheur privé. Mais à partir de ce moment-là, il y a une série de natures mortes avec des têtes de mort. On va en passer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Revenons de 2 en arrière. Vous remarquez qu'apparaît dans ces natures mortes des poireaux. Or, ce type de nature morte, qui est un genre pictural qui existe depuis le XVIIe siècle, quand il y a une tête de mort, c'est pour rappeler que tout est mortel, tout se détruit, tout disparaît, tout est vanité, on appelle ce genre de tableau une vanité, mais évidemment, il n'y a pas de poireau. Mais ici, Picasso fait un mélange, hein, une contamination de deux genres, vous connaissez tous la tête de mort avec les os croisés, c'est le drapeau du pirate, et il joue à mélanger les deux choses, parce que, au fond, la notion de l'évocation du pirate, c'est celle de la violence, de la cruauté et de la violence aveugle, n'est-ce pas, de la destruction de les pirates sont sans pitié dans les histoires de pirates. Et c'est ça qui est évoqué, n'est-ce pas? Non seulement la tête de mort est là, parce qu'on vit à une époque où la mort est courante, la mort violente, mais en plus c'était un temps de cruauté. Et évidemment les poireaux, parce qu'à cette époque à Paris, il n'y a rien d'autre à bouffer que des poireaux. Donc ça veut dire aussi en crève de faim, ça. On est dans la, je ne sais pas dire dans la purée, mais à peu près. Donc vous voyez comment l'artiste peut être le témoin de son temps à plusieurs niveaux, hein, simultanément, de traduction, de la qualité et de la difficulté de l'existence. C'est fini, je m'arrête ou... Bon, 3 minutes. Alors, je vais en prendre 5. Je voudrais vous montrer un artiste contemporain. C'est beaucoup plus difficile. Passez la première image. C'est un Allemand qui est né en 1945, quand la guerre se termine. Il a 20 ans en 1968, quand la société se révolte. Donc, il fait partie d'une génération, tous les grands peintres allemands qui sont aujourd'hui connus internationalement sont de cette génération. Des peintres allemands qui n'ont pas de mémoire. Parce que les deux Allemagnes, celle de l'Est et celle de l'Ouest, font silence sur le passé nazi, sur les massacres de la guerre, sur l'extermination des Juifs et des Gitans, et des fous, et des handicapés, etc. Et donc le problème, la question c'est comment un artiste peut-il se situer esthétiquement et thématiquement dans l'art contemporain, puisque quand on est artiste, on se définit toujours par rapport au passé. L'art est une aventure de renouvellement, hein, des formes. Donc c'est dur par rapport au passé. Et comment, que faut-il sauver de ce passé, n'est-ce pas, pour avoir en quelque sorte un matériau à partir duquel créer une œuvre artistique. Et ces jeunes peintres allemands vont chacun trouver, non sans difficulté et non sans douleur, une façon de se recréer des souvenirs et, alors que la mémoire collective est effacée. Volontairement effacé. Comment s'inventer une mémoire? Voilà leur problème. Alors, Anselme Piffert choisit de mettre les pieds dans le plat du politiquement correct, c'est-à-dire de l'oubli. En été 1969, il voyage en France, en Italie et en Suisse, et il dit « Je suis parti occuper la France, l'Italie et la Suisse », et il se fait photographier devant le monument en train de faire le salut nazi. Bientôt, il se met à peindre suivante d'immenses toiles. Celle-ci, Notuna, fait 3 mètres sur 432. C'est son atelier, mais on dirait l'intérieur d'un stalag. c'est-à-dire les bâtiments dans lesquels on enfermait les déportés. La taille rend le tableau oppressant. 1977, Parsifal. Même connotation. Parsifal, c'est un héros de la mythologie allemande. Hein, c'est le sauveur et le fondateur de l'Allemagne glorieuse. Et ici, dans le stalag, est abandonnée l'épée de Parsifal. Ce tableau veut rappeler que le régime nazi s'était emparé de cette mythologie, il l'avait utilisé, il l'avait galvaudé à son service. 1974, alors je vais passer vite, hein. il va faire des paysages qui sont tous des paysages brûlés, dévastés, déchirés, des paysages où la nature a perdu son innocence, où elle est à tout jamais détruite par l'aventure qui s'est déroulée dans ces paysages, c'est-à-dire la guerre. Ce tableau s'appelle la lande de Brandebourg. Le Brandebourg, c'est l'est de l'Espagne, de l'Allemagne. 1974, vous voyez, c'est un paysage de Barbelé. 1976, on passe parce qu'elle n'est pas à l'endroit. Passez la suivante. Voilà. Vous voyez, on ne sait pas si ce sont des piquets qui pourraient avoir servi de tuteurs à des plantes, ou ce sont des piquets qui restent de barbelés qui avaient couvert tout l'espace. Et de toute façon, ce tableau où la perspective est très accusée ne mène nulle part. C'est un paysage désespérant. C'est un paysage où on ne peut plus vivre. C'est l'image du monde que se représente en celtifère. Dernier exemple, je vais m'arrêter là. Ensuite. Ça, c'est un paysage avec une tombe au milieu, c'est évidemment symbolique, ensuite. Voilà. Alors, tous ces tableaux font plus de 3,60 m de long, hein, et certains font 4,80 m. Ils sont immenses. Ils sont peints avec une peinture extrêmement épaisse, parfois ça fait 5 cm d'épaisseur. C'est un peu comme un champ labouré. Ils mélangent à la peinture de la paille, du carton, des morceaux de photos, du papier. Donc, on a une matière qui est sale, qui est hideuse. Et la peinture est en quelque sorte matériellement l'image même du dégoût, du désespoir de quelqu'un qui pense à ce que son pays a fait dans le passé. Alors, la dernière image, c'est qu'il va peindre les grandes architectures néoclassiques qui étaient le style officiel adopté par le régime nazi. Très précisément, ici, il s'agit de deux temples qui ont été construits à Munich, qui ont été complètement détruits par les bombardements. Et donc, ces deux temples qui étaient... Alors, un temple antique, c'est des colonnes, et il ne peut même pas y avoir de toit, parce qu'un temple, la division, c'est un rectangle de ciel qui est découpé comme ceci, et c'est sa projection sur la terre. Ça permet aux dieux de descendre, hein, et de s'installer au milieu des hommes s'ils en ont envie. Ils n'en ont pas souvent envie, d'ailleurs. Alors, dans ces deux temples étaient installés en plein air les tombes des 23 compagnons d'Hitler qui étaient morts parce que Hitler, avant de prendre le pouvoir légalement avec les élections, avait tenté un coup d'État qui avait échoué misérablement, et 23 de ses compagnons étaient morts. Et ce temple s'appelait le temple des héros de la garde éternelle de l'Allemagne, je ne me rappelle plus bien, un adjectif si grandiloquent. Alors, ce tableau d'Anselm Kiefer s'appelle Le peintre inconnu. Alors, qui est le peintre inconnu? C'est Hitler, qui était peintre, vous savez, mauvais peintre. Ce tableau fait 3,41 m. Alors, évidemment, quand vous êtes devant des toiles de cette grande taille, qui sont toutes de couleurs extrêmement sombres, marron, je brille la couleur pisseuse, n'est-ce pas, ou merdeuse. On ne peut pas être saisi d'enthousiasme, n'est-ce pas, ou avoir le sentiment de l'héroïsme. On a exactement le contraire. Tous les titres renvoient à des choses qui furent célébrées comme des choses admirables ou à des héros de la mythologie allemande, mais les paysages ou les lieux qui sont en quelque sorte figurés comme ceux où pourraient réapparaître ces héros ou recommencer ces aventures prodigieuses sont des lieux ignobles. Et cette peinture, bien sûr, c'est une peinture qui est complètement engagée, vous voyez, dans un jugement sur la société à laquelle le peintre appartient intimement, hein, il est allemand, même si aujourd'hui il vit près du Zest, en France, il est allemand, et ce qu'il essaie de faire, c'est de trouver en quelque sorte une issue à ce dilemme de toute la génération à laquelle il appartient. Nous avons honte d'être les héritiers de ceux qui nous ont précédés, et pourtant nous ne sommes pas responsables. Comment faire pour porter le poids de cette culpabilité? Eh bien, autant l'affronter et en faire un spectacle qui dit notre dégoût et notre répugnance. Par là même, il retrouve en quelque sorte le droit de se regarder dans la glace, si je puis dire. On terminera là-dessus. Voilà.
Un élément singulier où l'univers est infiniment petit et la température est infiniment élevée. Donc là, ça pose la question que j'ai posée dès le début, parce que c'était sûr que vous alliez la poser, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Alors, la réponse du scientifique, c'est de dire, avant le Big Bang, je ne peux pas observer, j'ai pas accès à des observables. Donc ce n'est pas l'univers, c'est pas accessible aux scientifiques à la mesure. Hein, donc aujourd'hui, je dis avant le Big Bang, moi je ne peux pas en parler. Je ne peux pas y accéder. Par contre, les religions, comme vous le savez, se sont faites fortes d'expliquer pourquoi. Il y a Dieu. Hein. Donc ça fait partie après du contexte de chacun, de savoir si la religion peut être une façon d'expliquer ce qu'il y avait avant le Big Bang, ou si on reste extrêmement cartésien en disant bon voilà, je ne peux pas l'observer, ça n'existe pas, donc j'en parle pas. Donc ça fait partie des débats qui nous animent au niveau plus philosophique qu'au niveau scientifique. Alors il y a des théories qui sont élaborées aujourd'hui, qui sont des théories où il y a des univers parallèles, où au lieu d'avoir 4 dimensions dans l'univers, il y aurait 5 dimensions, voire plus. Et ça pourrait faire en sorte que notre univers soit seulement un composant d'un ensemble plus grand qui serait un multi-univers. Mais là, les questions sont reportées à chaque niveau. Qu'est-ce qu'il y avait avant ces multi-univers, etc., etc. Donc voilà, on est à la limite de ce que peut faire la science. Et là, l'esprit humain est suffisamment riche pour inventer d'autres explications. Alors non, parce que sans ça, ça pourrait créer quelque chose de similaire à l'univers s'il y avait autant d'énergie. Par contre, c'est effectivement des événements qui sont extrêmement énergétiques, qui sont tellement énergétiques qu'on est capable de les observer quasiment jusqu'au fin fond de l'univers, alors que c'est une seule étoile. Là, c'est pas une galaxie avec des milliards d'étoiles, mais c'est une seule étoile qui va exploser, qu'on va être capable de voir. Alors il y a des phénomènes encore plus violents que les supernovas, qui sont des hypernovas qui émettent des rayonnements encore plus importants, qui émettent des rayons gamma qui sont des rayonnements encore plus puissants que les rayonnements visibles ou infrarouges. Voilà, donc il y a des phénomènes dans l'univers qui sont extrêmement violents. Ouais. Il y a une question là. Alors l'univers est en expansion. Donc ça c'est confirmé, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, hein, donc c'est le ballon qui se gonfle, mais cette expansion est en accélération, c'est-à-dire que le ballon se gonfle plus vite maintenant qu'il ne se gonflait dans le passé. Donc cette expansion accélérée fait que voilà, on pense que l'univers va continuer à s'accroître jusqu'à se diluer complètement. Voilà. Alors c'est effectivement une question très sérieuse parce que dans notre, là on est à petite échelle, on est dans notre système solaire, donc la formation d'un système solaire en fait c'est relativement simple, donc je vous le fais bref, il y a un nuage de gaz initial, au cœur de ce nuage de gaz la densité, la pression devient suffisamment forte pour qu'une étoile s'allume, pour qu'il y ait des réactions thermonucléaires qui s'allument au cœur de ce nuage. Une étoile est née, hein, un soleil, et tout ce qui reste autour de ce gaz, avec des poussières, avec un certain nombre de choses, va avoir tendance à s'agglutiner en petits grumeaux, les petits grumeaux vont tendance vont avoir tendance à s'agglomérer en gros cailloux, les gros cailloux, etc., etc. Et donc on va former les astéroïdes, on va former les comètes, et puis après un certain temps, on va former des grosses planètes comme la Terre, Mars, Jupiter, etc. Par contre, une fois que cette formation est faite, un système solaire n'est pas propre. Il reste encore des cailloux. Certains des cailloux peuvent être des gros cailloux. Un caillou d'un kilomètre de diamètre qui n'est pas identifié et qui vient percuter la Terre, c'est peut-être pas la fin, mais c'est un événement majeur. Hein, il y a eu l'extinction des dinosaures, on pense qu'il a été produit par un impact majeur d'un très gros astéroïde sur la Terre. Donc ça, on a des évidences d'impact comme ça majeur, et à chaque coup on voit des évolutions donc au niveau des espèces à la surface de la Terre. Donc on espère qu'on ne va pas retomber dans un problème similaire. Alors, la plupart des gros corps qui pourraient détruire la Terre, tous les gros corps qui pourraient détruire la Terre ont été complètement répertoriés. C'est-à-dire qu'on connaît tous les gros astéroïdes du système solaire, ils sont suivis, leurs orbites sont connues, on peut prédire si on a un risque de collision. Et avec cela, le risque de collision, c'est clair, il est nul. Par contre, les plus petits cailloux, ceux qui sont de quelques centaines de mètres ou du kilomètre, on en a répertorié la plupart, mais ce n'est pas complètement impossible qu'il y en ait encore qui aient échappé à notre sagacité, et qu'il y en ait un qui soit dans une trajectoire de collision avec la Terre. Alors, il y a des programmes qui sont conduits, qui sont de suivi systématique, enfin de photos systématiques du ciel, pour essayer de trouver ces objets qui sont en déplacement rapide, et d'essayer de prévoir effectivement s'il y a un risque de collision ou pas. Bon, il y a des stratégies qui ont été développées de si effectivement on trouve un caillou qui risque de nous percuter, bon, est-ce qu'on envoie un satellite avec l'ensemble de nos bombes atomiques pour le dévier de sa trajectoire. Bon, voilà, il y a ce genre de choses qui ont été discutées. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul de ces cailloux qui est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Vous pouvez dormir tranquille, 2012, pas de problème. Voilà. Bon, la plus proche rencontre qui a eu lieu au cours du dernier millénaire entre un gros caillou et la Terre, c'était un objet qui est passé à deux fois la distance Terre-Lune. Bon, ça laisse encore de la marge. Alors déjà, il y a eu un débat à l'Union astronomique internationale, qui est le forum de discussion des astronomes à l'échelle de la planète, où on a déclassé, il était proposé de déclasser Pluton en tant que planète. Parce que dans le scénario que je vous ai indiqué, de formation des planètes, donc il y a les petits grumeaux, les petits cailloux, etc., donc il reste un certain nombre de fossiles de formation du système solaire qui sont plutôt de type astéroïde que de type planète. Et donc on pense que Pluton pourrait être un résidu de type astéroïde, et cette dixième planète hypothétique pourrait être aussi un résidu. Hein, donc mais il n'y a pas d'évidence flagrante que ce corps existe. Bon, il a été postulé. Ce qui était intéressant de voir, c'est que la mécanique newtonienne, qui marche très bien au niveau du système solaire, avait prédit exactement où trouver Uranus et Neptune. Ce sont quand même des découvertes qui ont été faites grâce à la mécanique newtonienne, en disant, voilà, regardez à tel endroit, enfin, de par la perturbation observée sur les autres planètes, regardez à telle heure, à tel endroit, et vous allez voir qu'il y a une autre planète. Et ça a été effectivement le cas, donc c'était assez, assez remarquable. Et là, il n'y a pas d'évidence similaire qui tend à montrer qu'il y a une dixième planète. Mais bon. Là, c'est vraiment beaucoup plus loin, les perturbations sont beaucoup plus ténues, etc. Il y avait d'autres questions ? Oui ?
Il n'y
a jamais rien eu qui s'est écrasé sur la Terre ? Ah si, si. La Terre elle-même, la Terre elle-même est un agglomérat d'astéroïdes qui se sont percutés les uns les autres. Il suffit de regarder, si vous avez eu l'occasion de regarder la Lune, soit avec des jumelles, soit avec un télescope, la Lune est constellée de cratères. Et la Lune, et c'est vraiment notre très proche banlieue, hein, c'est 300 000 km la Lune, hein, donc elle a été bombardée, la Terre a été bombardée comme la Lune, sauf que la Terre a eu une atmosphère, il y a eu une évolution des continents, il y a eu un certain nombre de choses qui ont effacé les traces des cratères. Mais il y a certains endroits sur Terre où on peut voir des très beaux exemples encore de cratères. Il y a le Meteor Crater en Arizona, par exemple, qui a un impact, ça fait, je sais plus, un kilomètre de diamètre. On a des traces de cratères qui font à peu près 200 km de diamètre, en particulier dans le Yucatan au Mexique. Et on pense que c'est ça qui était à la cause de l'extinction des dinosaures. Donc oui, on s'est fait bombarder, mais il y a longtemps, au moment où le système solaire était encore très, très sale, avec plein de cailloux partout. Il fait chaud dans le soleil. Alors le soleil, il est suffisant. Il émet suffisamment d'énergie pour nous chauffer déjà. Donc c'est pas mal. Le disque du soleil que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la chromosphère du soleil, la photosphère du soleil. Donc la photosphère, elle a une température qui est à peu près de 6000 degrés. 6000 degrés, bon, ça commence à être chaud déjà. Et si vous étiez capable de pénétrer dans le Soleil, au cœur du Soleil, c'est plusieurs millions de degrés. C'est l'endroit où il y a toutes les réactions thermonucléaires qui produisent au final la lumière qui est émise par le Soleil. Mais le Soleil est une étoile relativement banale. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus chaudes, qui ont une surface, une température à la surface qui est plutôt de 30 000 degrés. Et qui dépasse les 10 millions de degrés au cœur. Oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer le phénomène de la nuit noire ?
Alors oui, ça c'est le paradoxe d'Obler. Alors ce paradoxe-là, il est effectivement intéressant parce que l'univers était infini. L'univers infini rempli de galaxies et d'étoiles, même si elles étaient distribuées de façon inhomogène. Eh bien, on observerait, en fait, toute la surface du ciel devrait être brillante, parce que ce serait complètement couvert d'objets qui émettent de la lumière. Alors qu'en fait, on observe la nuit, elle est noire, effectivement, donc c'est le paradoxe, et ce paradoxe, il est résolu par un univers à quatre dimensions, qui est en expansion, avec un début et éventuellement une fin. C'est-à-dire que le fait que l'univers soit né à un certain moment, et que on ne remplit pas complètement l'univers à quatre dimensions, ça crée la nuit noire. Alors après, pour le prouver avec des équations, c'est pas évident. Mais c'est ça le principe. Alors, c'était le fameux camembert là, que j'ai montré. Donc tout ce qui est lumineux à partir d'atomes. Ouais. Donc les 5% qui sont ici, c'est ce qu'on appelle la matière visible. Donc c'est de la matière visible qui est constituée d'étoiles. Dans les étoiles, c'est essentiellement des atomes, de gaz. Des atomes, d'éléments lourds, des atomes, et puis de particules comme les neutrinos, mais là, vous voyez, c'est 0,3%. Donc oui, la matière lumineuse, c'est essentiellement des atomes. Alors, la matière noire, hein, donc les 23%, on en voit les effets gravitationnels. Hein, vous savez que quand vous mettez une masse à côté d'une autre, bah, y a une attraction qui s'exerce. Hein, c'est la gravité. Bon. Donc on est capable de voir, on observe une galaxie, la rotation des étoiles dans cette galaxie ne peut pas s'expliquer simplement en faisant la somme de la lumière. C'est-à-dire que si on calcule la masse de la galaxie, la masse lumineuse de la galaxie, elle n'est pas suffisante pour faire tourner les étoiles suffisamment vite. Donc il y a besoin de rajouter de la masse Et c'est à peu près, dans certaines galaxies, c'est à peu près un facteur 10, hein, donc c'est pas négligeable. Et c'est pour ça que c'est facilement mesurable, d'une certaine manière. Donc on voit la trace de cette matière. Il y a aussi une autre évidence, alors j'ai des images, mais ça va être un peu long à vous les retrouver, c'est ce qu'on appelle les mirages gravitationnels. Alors ça, c'est un truc absolument superbe. Ça avait été prédit par Einstein, qui avait prédit que s'il y a un alignement parfait entre une étoile et une autre étoile d'arrière-plan, eh bien on verrait cette étoile d'arrière-plan sous forme d'un anneau, l'anneau d'Einstein, simplement du fait de la théorie de la gravité, mais à ce moment-là mise au goût de la relativité. Ça a pris du temps, mais on a trouvé ce type d'objet. Donc on observe des arcs lumineux, éventuellement des anneaux lumineux dans l'univers, qui sont produits par la déflexion des rayons lumineux provenant d'une galaxie très lointaine, par une galaxie d'avant-plan. Et là, c'est magnifique parce que c'est une équation qui est très simple, qui relie donc la taille de cet anneau ou de cet arc observé à la masse de l'objet déflecteur. Donc là, on fait un petit calcul très simple, et on a la masse du déflecteur. Et encore une fois, si on compare la masse nécessaire pour former ces fameux mirages gravitationnels, ces fameux anneaux, on se rend compte qu'il manque de la matière. La matière lumineuse n'est pas suffisante, donc il y a de la matière noire qui est nécessaire pour expliquer ça. Donc on en voit les effets, ils sont traçables, mesurables. On en fait même la cartographie, ce qu'on a fait l'année dernière, on a fait une cartographie de la matière noire jusqu'à la moitié de la vie de l'univers. Bon. Donc on en voit les effets, mais on n'a pas encore d'idée de ce que ça peut être. C'est probablement une particule très lourde, mais qui n'a pas encore pu être observée avec les accélérateurs de particules sur Terre. Alors ça, c'est pour la matière noire. L'énergie noire, on en voit les effets aussi, parce qu'on voit cet effet d'accélération de l'expansion. Mais là, c'est un peu plus compliqué, parce que alors c'est une constante qui a été mise dans les équations par Einstein, quand il a fait ses équations de la relativité. Il a mis ce qu'il a appelé une constante cosmologique. Toute sa vie, il a dit, c'est ma plus grosse erreur, j'aurais jamais dû parler de cette constante cosmologique, parce qu'il en avait besoin pour faire que les équations marchent, qu'il avait rajouté cette constante. Et on y est revenu il y a 10 ans. Donc on a été obligé de rajouter cette constante dans les équations pour expliquer cette accélération de l'expansion. Et donc là on est confronté à vraiment un mystère, parce que là, ça peut être, comme je dis, ça peut être les équations de la physique qui ne sont pas suffisamment exactes pour représenter ce que l'on observe. Une première hypothèse, ou alors vraiment il y a encore des particules encore extrêmement exotiques qu'on n'a pas identifiées, qui seront identifiées dans le futur. Ouais. Alors d'autres planètes habitées, alors ça aussi, c'est, je dirais que c'est la seconde grande quête, hein, donc je vous ai parlé de la quête de la première lumière. La deuxième quête des astronomes aujourd'hui, c'est essayer de trouver s'il y a des planètes qui peuvent être qui présentent des caractéristiques similaires à la Terre. Alors, pendant longtemps, il y avait deux façons de voir. Soit on fait un petit calcul simple, on dit, alors il y a des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles, donc ça fait des milliards de milliards d'étoiles comme le Soleil, et la probabilité pour qu'il y ait une planète comme la nôtre autour d'une étoile, ça paraît assez élevé, après avoir des milliards de milliards d'étoiles de disponibles. Bon. Alors ça, c'est un premier raisonnement. Un deuxième raisonnement, c'est de dire la chaîne d'événements qui a conduit à la vie sur la Terre est tellement extraordinaire que ça n'a plus se produire qu'une seule fois dans tout l'univers. Bon. Alors, on en est encore là parce qu'on n'a jamais trouvé d'évidence de vie ailleurs que sur Terre. Mais quand même, on a trouvé depuis maintenant 1995, hein, la première planète qui était trouvée autour d'une autre étoile, c'était à l'Observatoire de Haute-Provence, pas très loin d'ici. Depuis 1995, on a à peu près maintenant 400 planètes qui ont été trouvées autour d'autres étoiles que notre Soleil. Donc on commence à avoir une idée, enfin la formation des planètes, c'est quelque chose maintenant qui est tout à fait banal. Hein, il fallait déjà le démontrer, que ce n'était pas seulement autour de notre étoile qu'il y avait des planètes. Donc là maintenant c'est clair, il y a des planètes autour d'autres étoiles. Et on est en train de chercher, d'essayer d'identifier des planètes qui sont de même type que la Terre, des planètes telluriques, qui seraient à peu près à la même distance de leur étoile, etc., etc. Et ça fait partie des projets du futur, de développer des très grands télescopes pour aller mesurer ce type de planète et de montrer, est-ce qu'elles sont similaires à la Terre ? Est-ce qu'on voit, par exemple, des signatures de la chlorophylle, des signatures de l'ozone, des signatures qui pourraient montrer qu'il y a une activité biologique sur la planète. Faire un spectre, un fameux spectre, mais un spectre d'une planète pour essayer de voir des signatures de... Voilà. Donc oui, c'est une des questions majeures. Des atomes ou ça ? Il me semblait avoir, que la question avait été déjà posée, mais oui, c'est la matière lumineuse, donc l'ensemble des étoiles qu'on observe, le gaz qui est entre les étoiles, oui, c'est des atomes qui émettent cette lumière. Ouais. Ouais. Alors ça s'approche, oui, c'est un chercheur chez moi qui s'appelle Magali Deloy qui a participé à cette découverte. Il y a un satellite qui s'appelle Kourou qui a été lancé il y a 3 ans et qui cherche ces planètes. Et donc il y a une planète qui effectivement qui a des caractéristiques proches de la Terre, mais c'est 3 fois le diamètre de la Terre, c'est assez massif et elle est très proche de son étoile. Donc elle n'est pas encore dans les conditions, dans la zone, ce qu'on appelle la zone de vie. J'ai pas entendu. Alors oui, alors les trous noirs, alors ça c'est des objets exotiques qui sont très amusants parce que c'est des objets qui sont suffisamment, il y a suffisamment de densité de matière, suffisamment de matière dans un petit volume pour que même la lumière ne puisse pas s'échapper du trou noir. Alors la matière, on a observé plusieurs enfin, un certain nombre d'objets où on voit la matière qui est autour du trou noir, qui est en train de tomber sur le trou noir. Donc, ça émet en particulier des rayons X, qui sont des rayons très énergétiques. Donc il y a beaucoup d'émissions X autour des trous noirs. Alors quand ça tombe sur le trou noir, il y a des effets qui sont extrêmement, extrêmement complexes parce que l'espace-temps est extrêmement distordu. Et donc on se retrouve avec de la matière qui va enrichir, premièrement qui enrichit la masse du trou noir, donc le trou noir grossit, il y a des trous noirs au centre de quasiment toutes les galaxies, et cette matière, une fois qu'elle est là-dedans, il y a des prédictions théoriques qui nous disent que ça doit devenir, mais c'est pas, je ne peux pas vous l'expliquer en termes vraiment très, très simples, parce que c'est vraiment compliqué. Quand on se retrouve avec de la matière qui est, je vais dire distordue, mais c'est pas le bon mot. Il y a vraiment une complexité de l'espace-temps qui fait que la matière est, c'est une transition de phase quasiment. Bon. Merci à vous.